Vous écoutez La Croche Oreille.
Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, l'émission qui se passionne pour les arts sonores, certes, mais aussi pour les artistes et les artisans qui animent, documentent, diffusent ce milieu artistique qui bouillonne d'activités. Je vous propose donc ce soir une rencontre avec le créateur sonore Sylvain Aubé, qui anime depuis 2 ans maintenant une série de rencontres avec des artistes et des commentateurs de la création sonore. Cette série intitulée Griche, le podcast, prend la forme de balados sonores disponibles sur le web et qui, ma foi, documente admirablement la scène sonore actuelle. Le programme mené par Sylvain Aubé donne la parole à des artistes, des historiennes, historiens, des producteurs, des productrices, tout ça assorti d'extraits sonores diffusés dans une perspective d'ouverture au grand public. J'ai rencontré Sylvain Aubé il y a quelques semaines à propos de Griche, le podcast. Sylvain est un passionné de musique, un artiste inspiré par de nombreux courants de la création contemporaine, en art sonore notamment. D'entrée de jeu, on écoute la musique thème de cette série de balados qui amorce ma rencontre avec Sylvain Aubé. Alors, salut Sylvain, heureux de te retrouver à l'émission.
Oui, bonjour Gaétan.
Oui, Sylvain, depuis 2 bonnes années maintenant, ça commence en octobre 2018 avec Magali Babin. Tu lances un podcast qui s'intitule Griche. C'est un podcast qui propose des entretiens avec des artistes sonores notamment. Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ce projet?
Oui, ben oui, donc écoute, déjà 2 ans, ça passait très très rapidement, donc à peu près 24 épisodes maintenant qu'on a réalisé, donc à peu près un par mois. Et puis au départ, c'était beaucoup l'idée d'avoir la chance de rester en contact avec les artistes, puis un peu d'avoir des conversations comme ça, un à un, et puis de faire partie là, de cette communauté de musiciens là, donc cette espèce de communauté imaginaire que je voulais regrouper ensemble. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Puis après ça, ben je me suis fait prendre au jeu. Puis j'ai donc à chaque mois, j'avais la chance de revoir des gens que j'ai pas vus depuis longtemps ou de rencontrer des nouveaux artistes. Donc dans le fond, ouais, c'est une très grande chance pour moi de faire ce podcast là. Et puis depuis ce temps-là, ben je fais plusieurs autres projets de podcast aussi en parallèle. Donc ça a été mon baptême du podcast.
Dis-moi, de manière succincte, comment tu décrirais la singularité du podcast Griche en tant que tel? Parce que parmi la foule de podcasts qui sont offerts au public, ton podcast compte sans doute parmi les plus originaux. Alors, comment tu le décrirais, ce podcast?
Oui, exactement. Donc, c'est vraiment un travail de vulgarisation, de mon point de vue. C'est-à-dire que je fais découvrir des artistes que moi j'aime, donc en art audio, en musique expérimentale. Et à chaque épisode, donc je fais jouer plusieurs extraits pour que les gens puissent entendre. Souvent, c'est des noms qu'on voit passer, soit dans des spectacles à venir ou dans les réseaux sociaux. On a rarement la chance d'entendre leur composition. Et puis l'autre élément, c'est que on a rarement la chance d'entendre leur voix. et puis de voir c'est quoi leur philosophie de vie, qu'est-ce qui anime leur musique, c'est quoi la philosophie derrière leur musique. Donc là, en leur parlant, ils peuvent nous expliquer un peu c'est quoi leur approche. Donc je trouvais ça très, très agréable de découvrir leur musique et leurs idées, en fait.
Sylvain, quand on navigue parmi tous ces podcasts que tu as réalisés jusqu'à maintenant, on constate tout de même que tu as développé une approche qui présente, d'une part, des propos d'artistes qui font de l'expérimentation sonore proprement dite, et d'autre part, des acteurs du milieu sonore du Québec, des historiens, historiennes, théoriciens, commentateurs. Comment ça se produit? Est-ce que c'est naturellement ou le fruit du hasard, tout ça?
Je dois avouer que, en fait, je fais une parenthèse pour indiquer que je me considère comme travailleur culturel. Donc, j'étais longtemps à la Galerie Oboro, à Montréal. Et puis, donc, mon rôle là-bas, c'était de faire du web. Mais j'ai vraiment eu la chance de rencontrer beaucoup de gens là-bas. Donc, il y a beaucoup de rencontres qui viennent de là. Donc, au départ, c'était des gens que je connaissais déjà, puis j'avais la chance de recontacter pour faire un entretien, une entrevue. Donc, au départ, c'était des gens que je connaissais beaucoup. Puis ensuite, j'ai voulu peut-être remonter le fil, puis aller voir des gens, par exemple, qui écrivent sur le sujet, et puis des gens qui ont une approche plus intellectuelle. Donc, c'est pour ça que là, j'ai agrandi le bassin, surtout dernièrement. Je te dirais que les 4 ou 5 dernières entrevues, il y a beaucoup d'une approche plus théorique. Donc, des gens qui parlent de leur audio, qui écrivent là-dessus, ou qui développent des contenus sur le sujet. Donc, en plus des musiciens.
Ton dernier podcast, d'ailleurs, que tu réalises avec Émilie Mouchous, il me semble illustrer à merveille cette idée d'aborder les aspects plus philosophiques liés à la création. C'est exact ou pas, ou qu'est-ce que t'en dis?
Oui, effectivement. Puis donc, c'est ça, l'avantage de faire un podcast par mois, ça me laisse le temps aussi de contacter les gens, aussi donc d'avoir un peu ma liste de rêves d'artistes que j'aimerais interviewer à l'avenir et de les rencontrer. Puis dans le fond, il y a quand même un point commun derrière tous ces artistes-là. Donc, ils font tous de l'art audio au sens large. Ils font tous de la musique expérimentale. C'est sûr que c'est des familles qui se recoupent. Donc, par exemple, la musique punk, la musique noise, c'est pas la même chose que la musique contemporaine, la musique faite en milieu académique. Mais quelque part, on se rend compte que ces gens-là sont interreliés entre eux. Donc, il y a des liens entre les gens qui étudient dans un contexte universitaire et ceux qui font des spectacles dans des salles underground. Donc, c'est ce lien-là un peu que je voulais tisser entre ces gens-là.
Sylvain, pour illustrer, on va écouter un extrait de cette rencontre que tu as réalisée dernièrement avec l'artiste sonore Cathy Kennedy.
C'est
ça
bien.
Va bien?
Ça va bien!
Bienvenue donc au podcast Gerich. Donc, on fait des entrevues sur l'art sonore. On reçoit aujourd'hui Cathy Kennedy. Et j'aimerais ça peut-être que. Donc, tu es artiste depuis des dizaines d'années, mais il y a peut-être plein de gens qui vont te découvrir, qui connaissent peu tes projets. Fait que peut-être on va regarder un peu plus le côté qu'est-ce que tu fais comme projet, puis d'où tu as commencé.
C'est bizarre parce que j'ai été une personne qui n'aimait pas vraiment les chorales et comment ça fonctionnait. J'avais un problème plutôt politique ou administratif. Oui, puis le Karmaha a été fondé avec l'idée de tasser le pouvoir et d'écarter le pouvoir et agents, oui. Et alors j'étais, et c'est curieux, mais ma carrière est fondée sur les choses dont j'ai un problème avec. Alors, je questionnais beaucoup le chant classique, comment on utilise nos voix, comment on perçoit notre voix. Et par contre, on n'entend jamais notre voix de l'extérieur, comment ça sonne réellement. Alors,
On n'utilise pas la voix en groupe ou rarement
Oui,
pour
et
en
depuis
collaboration.
cette culture de American Idol, la voix, des concours de chant, on pense qu'on est hyper critique de notre voix. Et comme une société, on perd le bonheur qui est le chant et de chanter ensemble. Alors, j'ai organisé des ateliers sur la voix et pas nécessairement sur le chant, mais comment faire de la musique avec la voix sans être poignée dans cette histoire de si je chante assez bien, si je garde la pitch et tout, et de trouver d'autres façons de s'exprimer avec la voix.
Ouais, donc c'est comme un peu chorale expérimentale
Comme
ou
oui.
improvisation,
Oui,
comme
bruitiste, on peut la. Et j'ai trouvé aussi en même temps que c'est une excellente façon de expliquer les principes de la musique contemporaine ou musique expérimentale, parce que tout le monde a une voix et on peut facilement comprendre qu'est-ce qui est l'idée de timbre avec la voix plus facilement qu'avec un piano ou un instrument.
Sylvain Aubé, derrière tous ces podcasts, il y en a déjà presque 25 de réalisés, à raison d'un podcast par mois, grosso modo. Dis-moi, qu'est-ce qui est à la source de cette passion pour le travail des artistes sonores et de leur vision? C'est un univers que tu connais bien, tu es artiste sonore toi-même, tu t'es produit en spectacle. J'aimerais que tu me parles du fil conducteur.
Oui, ben, je dois dire d'ailleurs que c'est le nom Grish vient d'un projet connexe qui était une étiquette de disque que je souhaitais démarrer. Donc, j'ai fait quelques parutions personnellement comme ça, mais donc Grish au départ c'était un label, donc Grish Audio, et puis donc c'est là que le lien est arrivé avec l'idée de reprendre ce nom-là pour avoir donc Grish le podcast derrière. Donc, dans le fond, c'est une passion, donc je suis moi-même musicien, j'ai fait plusieurs productions. J'en fais un peu moins en ce moment, mais ils sont quand même toujours disponibles sur Bandcamp, là, sur le grish.bandcamp.com. Et puis donc là, oui, effectivement, le podcast m'occupe beaucoup, mais je te dirais que c'est beaucoup les mêmes gens, donc les gens que j'avais la chance de rencontrer dans des spectacles. Donc là, j'ai la chance de les rencontrer par le podcast et d'avoir donc ces conversations-là qui sont super enregistrants.
Jusqu'à maintenant, Sylvain, tu as diffusé 24 épisodes de Grish, le podcast. Ça demeure un podcast de niche spécialisé. Qu'est-ce que tu cibles comme public?
Oh, c'est une bonne question. En fait, dans mes rêves, ce serait l'idée de démocratiser ce genre de musique-là, qui est un peu parfois perçu comme étant difficile d'approche. Donc, la musique expérimentale, la musique noise, on la voit souvent comme difficile d'approche. Donc, moi, je souhaite un peu la démystifier, puis donner une chance aux gens de découvrir, de dire, bon, OK, j'aime un extrait, j'aime moins l'autre, mais donc se faire une idée sur ça. Fait que, en fond, moi, c'est un public général que je vise. Par contre, j'ai eu un ou deux commentaires disant que c'était, ça pouvait paraître niché, en fait, comme podcast. Donc, effectivement, d'une façon réaliste, oui, c'est beaucoup les fans de musique, ceux qui connaissent déjà le style qui apprécient le podcast.
Oui, tout à fait. Grish constitue sans doute une documentation très riche, un contenu d'époque très pertinent au regard de la production sonore actuelle. Dis-moi, parmi tous ces épisodes, il y a certaines productions singulières, j'imagine. Tu pourrais m'en citer quelques-unes?
Ben oui, c'est toujours la question difficile, puisqu'on a, on apprécie chaque expérience, mais peut-être quelques-uns qui m'ont marqué. Je pense à Yves Daou, notamment, donc le quatrième épisode. Ce qui avait été intéressant avec Yves, c'est que je vais demander plus d'informations sur un peu l'historique de l'électroacoustique au Québec depuis les années 60. Là, j'ai eu comme toute comment lui l'avait vécu, la partie historique, comment ça avait commencé. Fait que, un peu toute l'archéologie de ce qu'on voit finalement en ce moment. Donc, ça, j'avais trouvé ça super intéressant. Et il y avait aussi, Béchard Hudon, ça avait été une grosse conversation. On avait creusé vraiment sur les enjeux plus de l'esthétique, de la musique, tout ça. Puis il y a eu plein d'autres rencontres. Il y a Philippe Lausier aussi, les derniers entrevues avec cet abordage, puis Tendier, donc Éric Fillon. C'était agréable aussi de creuser un peu le sujet. Donc finalement, ça a été quelques-uns de mes préférés. Mais des fois, dans le fond, je dis en blague, c'est un peu comme si je faisais mon doctorat en ce moment avec ces entrevues-là. Parce qu'un doctorat, c'est quoi finalement? C'est beaucoup de la recherche, faire des rencontres, faire des verbatim, et puis mettre ça en commun. Donc ça, finalement, c'est comme je dis en blague, là, c'est un peu mon doctorat que je fais depuis 2 ans là-dessus.
Sylvain, si tu me permets, on va écouter ensemble un petit montage des entrevues, trames sonores que tu as réalisées avec quelques-unes des artistes sonores du Québec, Yves Daou, Béchard Hudon, Esther Bourdage, Philippe Lausier. Voilà, on écoute ça.
Quatrième épisode. Aujourd'hui, donc, on reçoit Yves Daou, compositeur, enseignant et spécialiste de l'art sonore, forcément. Enseigner beaucoup la composition, après ça, ouais. Évidemment, donc l'université.
Conservatoire, essentiellement.
Donc là, tu as dû voir tout le progrès technologique hyper rapide.
Ah, tout à fait, on l'a forcément suivi, provoqué parfois, sans doute, mais non, c'est hallucinant. Évidemment, c'est un médium, bon, comme tous les médias fixés, qui dépend énormément des technologies, bien sûr. Moi, j'ai commencé, on travaillait sur des magnétophones. Et à l'époque, les studios étaient très lourds parce que les magnétophones, ça occupe beaucoup d'espace, ça en prend plusieurs et ça coûte très cher. Donc, moi, j'ai connu l'époque où les studios personnels étaient très rares parce que c'était trop onéreux. Donc, on passait par les groupes essentiellement, par les institutions, notamment en France, évidemment, GRM, IMEB, etc. Et donc, il fallait se faire inviter pour... etc. Mais par contre, quand on allait travailler dans des groupes comme ça, il n'y avait pas que les machines, il y avait l'influence esthétique du groupe. Et donc, c'était encore une époque, dans les années 80, enfin 70 surtout, mais 80, ça a commencé déjà à s'étioler, où les groupes véhiculaient non seulement contribuaient au développement des technologies, mais surtout à véhiculer des pensées, véhiculaient des esthétiques. À partir du moment où les moyens se sont démocratisé, il y a eu un glissement qui s'est opéré. Les étudiants ont perdu tranquillement leur influence parce que finalement n'importe qui pouvait s'acheter des machines. Bon, ça a été quand même, la transition a pris quand même assez de temps, hein, parce que les premières machines numériques étaient quand même lourdes et très très onéreuses. Mais moi, je me souviens que je prédisais à mes élèves, je leur disais, vous allez voir, dans un certain nombre d'années, votre studio va être une petite boîte noire, puis deux haut-parleurs, puis si vous n'avez pas d'argent pour les haut-parleurs, vous achetez un casque d'écoute, puis voilà.
Et dans le fond, les gens s'inscrivent encore en électroacoustique pour la communauté,
pour la communauté, pour le savoir intérêt, aussi, donc... pour aller chercher des raccourcis, pour aller chercher un savoir qui est véhiculé par des professionnels. Ça, ça reste fondamental, à mon avis. Mais effectivement, à partir du moment où ça s'est démocratisé, ou avec un petit ordinateur portable, puis quelques plugins qui coûtent presque rien quand on les paye, on peut commencer à faire de la musique. On peut commencer à s'amuser, à triturer les sons, et puis à faire des choses, puis à mettre ça avec de l'image, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup ça. Et donc, il y a eu une démocratisation, mais il y a eu des changements de paradigme absolument fondamentaux à ce niveau-là.
Juste pour l'anecdote, est-ce que certains de tes étudiants qui ont extraordinairement bien réussi, ou qui ont une notoriété?
Ben, notoriété, il n'y a personne qui se promène avec des verres teintés là, sur la rue, là, et ça, c'est fini, ça. L'époque des Stockhausen et compagnie, là, ça aussi, je veux dire, puis ça, c'est valable autant pour la musique instrumentale contemporaine.
C'est une marche.
Another technique I like very much was speed variations
time
that were possible with the forward function or the rewind.
I'm recording
my voice. As the sound is getting higher and higher, the first meaning and also the articulations are lost. And at a very fast speeds, it generates musical tones.
Philippe Lauzier est un musicien improvisateur, compositeur, artiste interdisciplinaire. Après des études en composition de 1998 à 2002, il dédie beaucoup de son temps à l'art de l'improvisation au saxophone et plus tard à la clarinette basse, qui deviendra son instrument de prédilection. Puis pour nos auditeurs, donc tu joues surtout live clarinette basse ou saxophone. Est-ce que tu as d'autres instruments quand tu joues live, quand tu joues en spectacle? Est-ce que
j'utilise beaucoup d'objets pour les objets que je vais aller déposer dans la cloche, par exemple, de ma clarinette basse, en jouant les notes graves de l'instrument, mais ces objets-là vont vibrer, par exemple, donc créer un son alternatif supplémentaire à la note. Aussi, d'autres petits objets que je peux manipuler comme en rotation sur le contour de la cloche de la clarinette aussi. J'ai comme des petites baguettes que je peux, ou ce que j'utilise aussi pour faire des sons percussifs. J'ai par exemple une balloune que je peux fixer sur une partie de mon instrument aussi, puis faire ça, c'est un peu technique là, d'écrire un peu qu'est-ce qui se passe, mais oui, j'interagis avec des objets via mon instrument.
Puis une fois qu'on te vu en spectacle, on retient aussi le fait que tu, la façon non conventionnelle de jouer, notamment avec le souffle sans les notes, donc par exemple souffler dans l'anche, la clarinette, puis tout ça, donc c'est une technique que tu utilises.
Ouais, tout à fait.
C'est-à-dire aller chercher toutes les possibilités sonores, mais sans qu'il y ait peut-être de notes précises à ce moment-là, mais plus des bruits, des souffles.
Je travaille beaucoup à partir du souffle, sans la présence d'un pitch, et avec la présence d'un pitch aussi, mais c'est ça, il y a beaucoup de... Bref, je m'amuse avec toutes sortes de choses.
Thank you.
aujourd'hui avec Esther Sophie Bourdage. Donc, comment vas-tu?
Personne m'appelle Sophie.
J'ai vu ça dans ta bio. Donc, Esther Bourdage, aussi appelée, qui joue sous le pseudonyme d'Esther B. Tu as eu la chance aussi d'écrire beaucoup sur le sujet. Donc, je vois sur ton blog, notamment, donc, une liste de...
Ouais, ça, c'est qu'une sélection.
Et par curiosité, je ne sais pas si tu as eu la chance de synthétiser toutes les différentes idées que tu as eues à travers tes commissariats, peut-être faire une publication sous ton nom, faire un livre. Donc, je vois que tu as publié dans plein d'endroits comme ça. Puis, est-ce que tu penses avoir la chance de publier quelque chose ou...
Intéressant.
C'est le signateur Bourdage.
Oui, parce que j'écris depuis, professionnellement, j'écris depuis 97. Et ouais, au début, c'était plus lié à l'art visuel, mais step by step, le sonore est arrivé. Mais ouais, une synthèse. À un moment donné, je pensais faire une sorte de compilation de mes best-of. Je ne sais pas si ça va se réaliser. Mais j'ai un projet mis sur la glace qui fait un pont entre un peu comme une continuation, une extension de mon mémoire de maîtrise qui était sur Jean Tinguely, puisque c'est un peu lui l'investigateur, la racine de qui je suis aujourd'hui sur ma vie professionnelle. Mais dans le sens, faire le pont entre son côté DIY, recycler la poubelle, recycler les objets et faire le pont avec les artistes d'aujourd'hui dont je suis leur démarche depuis quelques années, comme Adam Bazanta, Stéphanie Castonguay, des artistes qui interpellent ma curiosité. Bon, Tinguely a fait des œuvres avec des radios bousillées, tout ça, donc faire un écho avec Stéphanie et son usage de la radio, mais c'est tellement pas le même objet, mais c'est de la radio, mais la technologie a changé au fil des ans, hein. Donc ça, c'est, je me suis rendue à Houston, Texas, où il y a beaucoup d'archives et beaucoup de collections de Tinguely. Il y a quelques années, j'ai ramassé beaucoup d'informations, des datas. Et puis, c'est un projet sur la glace. Donc, ce serait peut-être ça pour répondre à ta question, mon projet d'écriture synthèse.
Voilà ce qui complète la première demi de l'émission. Alors, on est de retour après un bref battement promotionnel.
CKRL 89.1. Vous écoutez La Croche-Oreille.
Vous êtes sur les ondes de CKRL, c'est la Croche-Oreille qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Comme à l'habitude, vous trouverez le titre des pièces entendues ce soir ainsi que les émissions diffusées jusqu'à maintenant sur le site La Croche-Oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Je m'entretiens ce soir avec Sylvain Aubé. C'est un créateur sonore qui a développé de nombreuses collaborations artistiques avec notamment Stéphanie Castonguay, Émilie Mouchousse, Stéphane Claude, Charles Alexandre Grégoire et Christelle Griche, pour en nommer quelques-uns, quelques-unes. En complicité avec tout ce beau monde, Sylvain Aubé a lancé en 2017 une étiquette de disque intitulée Griche, qui est un label de musique électronique, expérimentale et improvisée, implanté à Montréal, dont je vous ai parlé il y a quelques mois maintenant. Mais ce soir, je vous propose son projet de balado sonore intitulé Griche, le podcast. C'est une série de rencontres qu'il réalise avec des artistes et des artisans de la scène sonore du Québec, un projet qu'il mène depuis octobre 2018 et qu'on peut écouter, retrouver sur le web en faisant simplement Griche le podcast comme vedette de recherche. Alors voilà, j'enchaîne avec la suite de l'entretien que m'a accordé l'animateur sonore Sylvain Aubé sur un extrait cette fois d'échange qu'il a réalisé avec le duo Béchard-Hudon.
Aujourd'hui, je reçois Catherine Béchard et Sabin Hudon, qui forment depuis 1999 le duo d'artistes Béchard-Hudon. En leurs propres mots, si notre médium premier est d'abord l'installation cinétique et sonore, nous réalisons aussi des sculptures cinétiques silencieuses, des pièces audio, des œuvres 2D, des œuvres d'art public et parfois des performances. J'ai eu le plaisir de les rencontrer à Montréal pour qu'ils nous parlent de leur parcours et plus particulièrement de trois de leurs œuvres. Aujourd'hui, donc, j'ai eu la chance d'expérimenter la singularité du banal donc à l'exposition Banlieue à Laval l'année dernière. Je vois que ça a été lié à toute une recherche, donc oui. tout le travail qui a été fait avec les micro-contacts, les micros sur les ponts, ce qu'on peut entendre sur votre SoundCloud. Mm-hmm. Peut-être nous parler de l'ensemble de ces projets-là, puis comment le projet Laval s'inscrivait dans cette lignée. Donc, ça, c'est la singularité du banal.
D'abord, Jasmine Colisa, la directrice artistique de la Maison des Arts de Laval, nous a contactés pour le projet de la Triennale Banlieue en nous disant « Est-ce que la banlieue, on fait une triennale, est-ce que ça vous inspire? On aimerait ça vous inviter à travailler là-dessus. » Puis, ben là, d'abord, on a dit à Jasmine « Ah, ok, intéressant, on va y réfléchir. » Et ça, ben moi, ça faisait un grand bout de temps qu'on voulait travailler avec des ponts. Et la première chose qui nous est venue pour la triennale, pour la banlieue, c'est qu'est-ce que l'interface entre la ville et la banlieue? Ce sont les ponts, entre autres. Il y a aussi les autoroutes.
Les tunnels,
mais entre autres des ponts. Mmh. Puis là, on s'est dit, ah, là, ça serait l'occasion de travailler avec des ponts. Ça fait longtemps qu'on veut enregistrer la résonance. Parce que nous, la résonance, les entre-espaces, tu sais, ce qui nous échappe, un peu l'inaudible, dans le sens que notre oreille ne perçoit pas ces sons-là. et de les révéler. Donc, il y avait quelque chose à travers ça qui nous intéressait. Et là, c'était... et on a dit à Jasmine, oh oui, on aimerait peut-être travailler avec les ponts. Et si on travaille avec les ponts, bien, on aimerait recréer une surface de résonance dans laquelle ces sons-là seraient émis en action par des transducteurs. Donc, prendre une résonance... la résonance des ponts, puis la mettre dans une autre résonance architecturale. Parce que c'est aussi l'architecture qui est toujours, est souvent présent dans notre travail.
Je dirais qu'il y avait une première phase dans le travail qui était évidemment de faire une captation de ces structures-là, donc les ponts. Là, on a eu une résidence avec le Centre Avatar pour faire ces enregistrements-là. Donc, on s'est rendu à Québec pour... Avatar nous a prêté de l'équipement. On a aussi fabriqué nos propres capteurs, c'est-à-dire des micro-contacts vraiment sensibles. On a développé quelque chose qui était assez satisfaisant, je dirais, au niveau de l'enregistrement, parce que c'est aussi quelque chose qu'on aime faire, c'est-à-dire quand on a une captation à faire, de un peu développer notre propre processus,
notre lutherie,
puis d'essayer des affaires, puis tout ça. Donc, ça nous a permis à Québec...
Ben, dans ce cas-ci, c'était les micro-contacts. On voulait des micro-contacts qui...
On voulait des micro-contacts...
Sans avoir tous les bruits parasites autour.
C'est ça. Donc, des micro-contacts qui n'ont presque pas de bruit de fond. Puis, en général, dès que tu amplifies un signal, c'est que tu as du bruit de fond, ce qui t'enlève de la définition dans ton... On a réussi vraiment à avoir quelque chose qui nous permettait de capter très, très loin, par exemple, sur la structure d'un pont où... Si le pont a un kilomètre de long, donc de sentir des vibrations qui venaient vraiment, qui étaient transmises de très loin parce que ce niveau de bruit de fond-là était très, très bas. T'sais. Puis ça, on a vraiment eu des bons résultats. Puis à Québec, donc, on a fait le pont de Québec, puis on a fait le pont de l'île d'Orléans, puis on a fait le tracé de Cap-Rouge, ce qui sont quand même trois ponts majeurs, très différents. D'ailleurs, comme tu disais tantôt sur notre SoundCloud, on a des extraits, là... Puis ça, c'est des enregistrements qu'on a mis tel quel. Donc, il n'y a pas eu de spatialisation. C'est les deux pistes directes stéréo qu'on a achetées, qu'on a mis.
Dis-moi, quand on prend connaissance du podcast, Grish, tu soulignes le fait que, parallèlement aux arts sonores, tu souhaites également te pencher sur des questions plus générales concernant les arts et la culture. Qu'est-ce que tu nous indiques par là?
Donc, dans le fond, une des très grandes idées qu'il y avait dans le podcast Grish, c'est aussi... un peu de mettre en contact plusieurs générations. Donc, l'idée de transmission était beaucoup là. Donc, le fait qu'il y a une relève en ce moment, puis il y a des gens qui font ça depuis 30 ans, donc des gens comme Joanne et tu. Donc, c'est pour ça que dans le podcast, dans ma sélection, il y a un très grand soin qui est apporté à montrer différentes générations. Donc, justement, comme Yves Daou, qui était actif plus dans les années 80, par exemple. Je vous fais aussi une entrevue avec Louise Boisclair, qui est quelqu'un qui écrit des livres, mais donc qui était aussi là à l'époque. Donc, finalement, j'essaie de combiner les différents âges. Donc, montrer qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient à l'époque. Donc, redécouvrir ce qu'on a un petit peu perdu. Donc, le côté archive, là, donc j'essaie de mettre ça de l'avant aussi.
Sylvain, pour clore notre rencontre, on pourrait parler ensemble un peu d'avenir. C'est tout un travail de réaliser, d'animer un podcast. J'imagine que tu as des projets de développement de cette belle initiative. Qu'est-ce que tu imagines pour l'avenir? Qu'est-ce que tu projettes là?
Effectivement, donc là, après 2 ans, je me rends compte que j'ai énormément de matière. Et puis, c'est ça, donc j'ai des projets à venir. Donc, il y a l'idée de faire un livre qui est là depuis très, très longtemps avec ça. Sous différents formats. Et là, donc, dernièrement, il y a certains développements. Donc, je pense qu'on se rapproche là, de l'idée de pouvoir réaliser ce livre-là. L'idée qu'on peut prendre des entrevues, les mettre en verbatim et puis les bonifier avec des images, des extraits audio. Donc, avoir un livre comme ça serait un projet. Puis aussi l'idée de compilation. Donc, le fait que parmi ces gens-là, donc c'est un petit peu l'idée de départ aussi de Grish, là, donc le label d'avoir pour faire une compilation avec ces gens-là. Donc ces deux projets-là, livre et compilation, ben, ouais, ça pourrait faire objet d'un, par exemple, d'un sociofinancement. Donc les gens s'abonneraient au podcast ou pourraient acheter le livre. À chaque année, il y aura un nouveau livre avec une douzaine de nouveaux artistes. Donc dans le fond, ça c'est des projets que je suis en train de développer activement, puis qui vont peut-être même prendre le dessus, qui sait, sur les entrevues audio. Donc, un truc très particulier qui est spécial dans le podcast, c'est qu'à la fin de chaque épisode, je demande toujours aux gens qu'est-ce qu'ils font en dehors de leur production artistique et puis leur production musicale. Puis donc, à chaque épisode, j'ai réussi à avoir une réponse sur un côté caché des artistes. Là. Donc, il y en a beaucoup qui font du jardinage, beaucoup font la cuisine, J'ai eu vraiment toutes sortes de réponses au fil du temps, mais je trouvais ça le fun aussi de voir qu'est-ce que les gens faisaient en dehors de la musique et de l'art.
Il y a vraiment l'idée derrière ces entrevues d'humaniser le travail un peu obscur de l'expérimentation sonore, de nous rappeler que les artistes sont bel et bien, comme tout le monde, avec des passions et des activités très terre-à-terre.
Oui, c'est ça. Donc, ça peut paraître une musique d'initié, mais oui, effectivement. Donc, les gens sont, sont quand même faciles d'approche, sont sympathiques et peuvent prendre le temps là, de nous expliquer ça.
Sylvain, pour terminer, les auditeurs qui aimeraient écouter ton podcast, là, on s'y prend comment? Où c'est qu'on les retrouve?
Oui, donc c'est, on les trouve en ligne sur le site Grish, grish.org. Pour ceux qui sont des fans de podcasts, il y a une application, il y a plusieurs applications. Il y en a une qui s'appelle Pocket Cast. Et c'est l'idée qu'on peut s'abonner, soit sur Apple Music ou n'importe quelle application similaire. Donc justement, on peut s'abonner à Grish. Chaque mois, donc on a l'épisode dans notre appareil. Et sur le web, donc grish.org, et sur Facebook. Sur Facebook, là, on peut avoir les commentaires. C'est fun sur Facebook. On voit d'ailleurs la réaction, c'est très, très variable. Donc, il y a eu des hits, il y a eu des... mais donc, c'est ça, il y a à peu près déjà 250 abonnés sur le Facebook. Et puis, voilà, Facebook, Instagram, sur le web, puis sur les plateformes de podcast.
Ouais, très intéressant en effet, Sylvain. Grand merci de m'avoir accordé cette belle rencontre.
Ben oui, excellent. Donc, oui, merci à toi, Gaétan. Au plaisir de se revoir.
Alors voilà, ça complète l'entretien avec Sylvain Aubé sur des sonorités du duo Catherine Béchard-Sabin Hudon. C'est capté, je pense, à même le Tracel de Cap-Rouge, un projet d'expérimentation sonore qu'il mène depuis un petit moment. Cela dit, salutations et grand merci à Sylvain Aubé de m'avoir accordé cette rencontre. Hormis la réalisation de son podcast, je rappelle que Sylvain Aubé est aussi un artiste audio et créateur sonore de musique électronique et expérimentale. Ses explorations sont assez diversifiées, riches sur le plan sonore. Elles sont réalisées à partir de fréquences minimalistes en interaction. Parmi ses techniques de création, il exploite l'idée de nuages de son nés de la rétroaction infinie entre les instruments. Alors, au cours des 5 dernières années, Sylvain a non seulement développé une identité sonore, mais lancé de nombreuses parutions, dont une toute récente intitulée « Show d'adieu du Monocone ». C'est un projet issu d'une performance réalisée en Gaspésie dans le cadre de l'événement « Les Perséides » sous le commissariat sonore de Esther Bourdage. Je vous en propose donc un extrait en guise de conclusion ce soir. un extrait intitulé « Mélancolie » réalisé avec la participation de Stéphanie Castonguet. Alors, on écoute ça. Eh bien, ça complète le programme de ce soir. En rappel, vous trouverez la liste des pièces entendues sur le site La Croche-Oreille. C'est facilement repérable sur le web. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL pour une autre aventure sonore. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue.
Cette émission est disponible en balado-diffusion.